De retour, rebonjour. Le mois de janvier est un mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et dans ce sens-là, c'est évidemment important d'en parler toute l'année et nous sommes très heureux d'avoir en notre compagnie le docteur Sylvie Belleville. Docteur Belleville, comment allez-vous?
Oui, bonjour, très bien, heureux d'être avec vous.
Votre expertise dans le domaine est remarquable et c'est on pourrait faire, je dirais, la liste de tous vos états de service et de tous les comités et organismes auxquels vous participez. Mais on va simplement dire que vous êtes une experte en neurosciences cognitives et chercheuse sur la maladie d'Alzheimer et présidente du comité scientifique de l'UCLAB, et nous allons parler de ça aujourd'hui. Mais
oui.
Vous êtes également professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice de laboratoire au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences, et j'en passe. Alors, vos qualités dans le secteur de la maladie d'Alzheimer ne sont certainement pas mises en doute. Mais nous allons aujourd'hui parler surtout de l'UCLAB. Et ça, c'est bien, c'est une application qui permet à tout le monde de mieux comprendre ce que l'on peut faire pour prévenir l'Alzheimer.
Oui, absolument. C'est une application préventive numérique qui est développée pour les personnes entre 45 et 70 ans et qui va viser en fait l'adoption d'habitudes de vie qu'on connaît, que la science a montré comme étant liées au développement des troubles cognitifs avec l'âge et en particulier la maladie d'Alzheimer. Et ce que Lucie va faire, c'est donner tout un tas de contenu d'informations là-dessus, évidemment, c'est important, mais aussi d'accompagner avec des vrais conseillers via cette application, d'accompagner les gens pour les aider à changer leurs habitudes de vie, parce que même quand on sait que, par exemple, l'activité physique est associée à une meilleure santé du cerveau, ça peut être compliqué de vraiment changer dans sa vie, d'adopter une nouvelle habitude de vie comme ça, et puis aussi de maintenir dans le temps. Donc, on donne accès à ces conseillers, et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique.
Parce que, c'est comme vous le dites, surtout en janvier, c'est souvent le cas, on a plein de bonnes intentions, on se fait des résolutions, l'activité physique, comme vous venez d'en parler, a une incidence préventive pour les maladies neurocognitives. L'alimentation aussi, je pense, a son rôle à jouer.
Oui, l'alimentation. En fait, ce qui est très intéressant les dernières années, c'est que la science a montré que même s'il y avait une composante génétique dans la maladie d'Alzheimer, en fait, la composante liée à des facteurs de risque modifiables est extrêmement importante et pourrait compter jusqu'à 40% des cas. Ça veut dire que si on pouvait agir là-dessus, on pourrait réduire considérablement le nombre de cas, puis repousser le moment où on développe des troubles neurocognitifs majeurs. Et ces facteurs, ben, il y a l'activité physique, oui, il y a la nutrition, il y a les activités cognitivement stimulantes. Ça, c'est les domaines sur lesquels Lucie va travailler, Lucie-là va travailler en particulier. Là, pour juste un peu restreindre, il y en a d'autres, les facteurs de risque vasculaire, l'audition, l'isolement social, etc. Donc, tout un facteur de risque sur lequel on peut agir comme individu.
Donc, si je comprends bien, près de 40% des cas d'Alzheimer auraient pu être prévenus ou du moins retardés de façon significative avec des habitudes de vie saines.
C'est ce que la science nous montre. Ce que la science, quand je vous dis 40%, c'est que la science nous montre que quand on regarde les grandes études épidémiologiques qui regardent comment un facteur de risque est associé à la démence, et puis est-ce que ce facteur de risque est très présent dans la population, parce qu'évidemment, c'est important, s'il est peu présent, il ne va pas rendre compte de beaucoup de cas, mais c'est des facteurs de risque qui sont très présents dans la population, et donc si on fait l'espèce de calcul mathématique pour regarder comment en fonction de ça, jusqu'où on peut prévenir le nombre de cas, ben c'est ça. C'est 40% des cas sont associés potentiellement à des facteurs de risque modifiables. Après, il faut bien sûr montrer qu'on est capable de réduire de façon significative ces facteurs de risque comme individu et comme société. Mais ça donne beaucoup d'espoir.
Évidemment. Ben oui. Parce qu'il y avait souvent, je dirais, un peu comme un aspect inéluctable qui semblait attaché à l'Alzheimer. Ça frappait les gens, il n'y avait rien à faire. C'était presque une fatalité.
Absolument.
Mais maintenant, ben, ça nous donne tout un espoir. Et ça part donc de l'adoption d'habitudes de vie qui sont plus saines. Mais l'être humain étant ce qu'il est ou ce qu'elle est... Souvent, à l'adoption, ben, on a plein de bonnes volontés, mais on n'y arrive pas. Et c'est là que Lucilab intervient, l'application qui est disponible.
Oui, parce que Lucilab travaille avec des accompagnateurs qui sont spécialisés dans le changement de comportement, qui savent c'est quoi les enjeux que les gens rencontrent d'habitude quand ils essaient de changer un comportement. Et donc, les accompagnateurs vont être capables de donner le petit coup de pouce au moment où... la motivation baisse un peu, on trouve qu'il y a un enjeu particulier pour changer mon alimentation parce que je ne trouve pas les bons aliments dans mon environnement, etc. Donc, il y aura ce petit coup de pouce très pratique qui va être donné et personnalisé, qui va être offert par ses accompagnateurs et qui vont permettre justement d'aller un peu plus loin, de maintenir ce changement, puis maintenir sa motivation dans le changement d'habitude de vie.
Et parce qu'il faut s'adapter à la réalité de la personne, comme vous dites, à son milieu. Et en même temps, ben, si on lui donne un peu un suivi, parce que c'est important que peut-être après la deuxième, la troisième ou la quatrième semaine, que quelqu'un soit encore là pour gentiment nous rappeler que des choses sont possibles et de les faire. Donc, on devient coaché, si je peux dire. On a des coachs de vie.
C'est ça. On n'utilise pas le terme coach parce que c'est... Mais c'est un peu ça, dans le fond.
D'accord.
Si on a vraiment un accompagnateur, quelqu'un, un conseiller, on utilise le terme conseiller, mais un conseiller qui va nous aider, d'abord, qui va nous aider à établir des objectifs qui sont réalistes, parce que souvent, les gens se font des objectifs qui ne sont pas réalistes, ils se découragent, etc.
Donc, c'est vrai.
On y va avec une approche pas à pas, petit pas à petit pas, en soulignant vraiment que ce qui est important, c'est d'améliorer. C'est pas nécessairement le but ultime, formidable, d'être parfait, etc., mais c'est d'améliorer toujours un pas dans la bonne direction. Par exemple, si vous êtes très sédentaire, peut-être pas du tout d'activité physique, c'est bien de déjà d'améliorer, de marcher un peu plus, et c'est pas nécessaire que ce soit très compliqué, etc. Donc, on va vraiment faire un accompagnement qui est adapté aussi à son milieu particulier. J'habite en ville, c'est compliqué. Alors, au contraire, il n'y a pas de gym près de là où j'habite. Comment je peux faire ça à la maison, etc. Donc, il y a vraiment des façons de donner des conseils aux gens pour que ça s'intègre dans sa vie puis que ça devienne vraiment partie de sa vie. À la fois la nutrition, activité physique, aussi activité cognitivement stimulante. Hein. On rappelle aux gens l'importance de la variété, d'aller un petit peu au-delà de sa zone de confort, de stimuler intellectuellement. On fait toujours du sudoku, ben, essayons autre chose, essayons des problèmes un peu plus difficiles.
Oui, parce qu'il est question donc d'exercice cognitif aussi. L'alimentation, l'exercice physique, c'est une chose, mais il y a aussi, de pratiquer le muscle cérébral, donc de faire des choses qui demandent une attention puis une concentration.
Tout à fait, parce qu'on parle de maladie du cerveau, donc le cerveau et les activités cognitivement stimulantes, on sait qu'elles vont changer le cerveau, elles vont amener de nouvelles connectivités qui vont nous aider éventuellement à combattre une maladie cérébrale. Donc ça, c'est aussi des nouvelles études qui sont très, très intéressantes. Et donc, on va amener les gens à aussi, non seulement être actifs physiquement, mais être actifs intellectuellement.
Oui. Alors, Lucilab, ça se trouve L-U-C-I-L-A-B, Lucie comme lucidité, lab comme laboratoire, je suppose.
Oui, absolument, .ca. Donc,
comment est-ce qu'on le retrouve pour aller le rejoindre, Lucilab, et l'avoir sur son ordi?
Oui, ben, si vous allez sur le site web, vous allez avoir toute l'information sur sur comment joindre le programme si vous êtes intéressé. Et puis donc lucilab.ca.
Parfait. lucilab.ca.
Oui, voilà.
Et en 2022, il faut le dire, vous avez déjà eu plus de 13 000 utilisateurs, 4 500 rencontres, et de là, Lucilab a pu générer presque 3 000 objectifs personnalisés.
Ouais.
Si ça va continuer de croître de façon exponentielle, on le souhaite. Comment vous faites pour assurer le suivi de tous ces gens-là? Vous parlez des conseillers, ça doit demander beaucoup de participants, beaucoup de gens qui peuvent suivre tous ces gens.
Oui, absolument, absolument. Alors, on espère éventuellement qu'on intéressera peut-être des décideurs ou des organisations qui pourront contribuer, mais pour l'instant, ça marche très bien et parce que c'est une application numérique, hein, donc c'est pas comme je me déplace, j'ai un rendez-vous d'une heure. Donc ça, il y a une efficacité ici qui est formidable, hein, et donc ça fonctionne très bien. Mais moi, ce qui m'a impressionné comme chercheur, je suis surtout chercheur, d'abord chercheur, c'est l'engouement, c'est oui. L'intérêt. Ça montre que les gens veulent. D'abord qu'ils sont inquiets. On sait ça, on avait déjà montré que la santé du cerveau, c'est une priorité chez les personnes plus âgées.
Oui.
La mémoire, être sûr qu'on garde sa mémoire, parce qu'on sait que tout ça, notre autonomie dépend de ça. Hein.
Tout à fait.
On sait bien. Donc, et les gens sont vraiment très, très motivés par le fait d'avoir un contrôle justement sur les facteurs de risque. Quand on disait, vous disiez tout à l'heure, ça donne de l'espoir, puis c'est pas juste ça, c'est que ça donne l'impression qu'on peut avoir, nous, un certain contrôle sur notre santé du cerveau. Et ça, c'est bien de prendre des actions. Même quand on est à risque génétiquement, mettons que oui. Votre famille, il y a des cas dans votre famille, c'est
il faut pas baisser les bras, voilà.
Ben, c'est qu'on a montré, en fait, que ça avait un impact, même chez les gens qui sont à risque, et même peut-être un peu plus. Donc, ça veut dire que il y a vraiment, on peut vraiment faire des choses et s'approprier sa santé cérébrale et sa santé cognitive.
Tout à fait. Et ça, c'est source d'espoir. Puis ça devient finalement un cercle vertueux. On se sent mieux. On est conscient qu'on prend soin de soi. Ça fonctionne. Et ben, à ce moment-là, ben, on tient la route. Et s'il y a un accompagnement en plus, ben, ça, c'est merveilleux.
Puis vous savez, ce sont tous des facteurs qui sont aussi bons pour le cœur, qui protègent du cancer.
Ben, tout à fait. Donc, écoutez, il y a 15 minutes ici, en ondes, on parlait des bienfaits de l'exercice physique pour le cancer de la prostate. Alors, c'est certain que de bouger, de bien s'alimenter et d'avoir un esprit actif, éveillé, là, par toutes sortes de pratiques ludiques ou d'éducation, ben tout ça, ça milite pour nous garder plus sains et plus heureux plus longtemps.
Ben, absolument.
Docteur Belleville, merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
On invite tout le monde à aller sur Lucilab et commencer peut-être un pas dans la bonne direction. Ça sert.
Voilà.
Faut pas avoir des objectifs irréalistes comme vous dites, mais en même temps, il faut mettre un premier pas devant l'autre. Et commencer quelque part. Ben, merci.
Merci. Bonne journée.